CDI Podcast. Entrepreneur de légende.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Entrepreneur de légende. Je suis Mickaël Icard, journaliste reporter pour CDI Média et je suis en compagnie de Sylvain Bersinger, économiste chez Astérix mais surtout auteur de la série de livres Entrepreneur de légende qu'il a décliné dans plein de volumes très passionnants. Merci d'être avec moi Sylvain.
Merci Mickaël.
Alors, épisode un peu spécial aujourd'hui Sylvain, car nous allons aborder l'histoire d'une marque dont les fondateurs sont vraiment, mais alors vraiment moins connus que leur société. Cette marque arriva à chambouler le monde du cinéma comme nous le consommons de nos jours, puisque cette marque c'est Netflix. Alors qui se cache derrière la création de ce mastodonte du streaming? Eh bien c'est Reed Hastings et Mark Randolph, on les présente.
CDI Podcast, entrepreneur de légende.
Alors Sylvain, pour commencer, Mark Randolph est né en 1958 dans la banlieue nord de New York.
Oui, donc il est né dans une famille, on va dire, plutôt éduquée, un père ingénieur, fait plutôt de bonnes études. Et après, ça a été un touche-à-tout, c'était un peu sa marque de fabrique, hein. D'ailleurs, on le verra avec Netflix, il a cofondé Netflix, et puis après il allait faire autre chose, parce que c'est quelqu'un qui a toujours eu la bougeotte. Donc parmi les diverses poste qu'il a occupé, on va citer les plus importants pour la suite, disons. Il a notamment travaillé pour une entreprise qui vendait des CD-ROM par correspondance.
Ça, c'était son premier emploi.
Voilà, c'était son premier emploi. On verra que c'est quand même important pour la fondation de Netflix.
Oui, c'est ce qui l'a fait un peu réfléchir à tout ce qu'il fera plus tard.
Oui, à la vente par correspondance. Et puis après, il a aussi monté une société de vente de matériel informatique par correspondance. Donc on voit un peu cette spécialisation. Et puis après, il a fait beaucoup de choses, bossé dans l'informatique, et notamment dans une société qui s'appelait Pure Atria. Et c'est là qu'il va rencontrer Reed Hastings, donc l'autre cofondateur et peut-être la figure la plus emblématique de Netflix, puisque c'est encore lui qui dirige l'entreprise aujourd'hui.
Oui, c'est celle qu'on connaît un peu plus. D'ailleurs, justement, Reed Hastings, lui, il est né en 1960 à Boston.
Voilà, il est né 2 ans plus tard, également dans une famille plutôt aisée, éduquée, un père procureur, sa mère fille d'ingénieur, d'un grand ingénieur dans le nucléaire.
D'ailleurs, c'est un élève brillant, lui.
Alors, c'est un élève brillant, notamment en sciences, en maths. Après, il va arrêter un temps les études, il va faire l'armée, il va partir en Afrique et enseigner les mathématiques dans les petits villages un peu reculés.
Un peu de vocation là-dedans pour les maths, du coup.
Oui, c'est vraiment un scientifique, c'est un peu sa passion, quoi, les maths, l'informatique, la physique. Et d'ailleurs, il revient aux États-Unis à la fin des années 80, et il va à Stanford, dans la prestigieuse université californienne, étudier l'informatique. Et
on n'arrête pas de parler de cette université.
Stanford, c'est un peu le berceau d'énormément d'entrepreneurs de la tech et de l'informatique. Une grande partie sont passés par là, quelques autres par Harvard, mais enfin c'est vraiment un peu le nœud des étudiants qui ont changé le monde ces 20 ou 30 dernières années.
Donc il est au bon endroit là.
Voilà, il est au bon endroit. Alors contrairement à d'autres, hein, on peut penser au fondateur de Google par exemple, lui ne va pas créer tout de suite son entreprise qui deviendra très célèbre, comme certains l'ont fait alors qu'ils étaient encore étudiants, ils ont lancé leur entreprise dans leur chambre étudiante. Donc il va travailler pour plusieurs entreprises informatiques à développer des logiciels. Et en 1991, il fonde sa première société, Pure Software, donc qui développe des logiciels, qui ont une PME.
Oui, donc il a quand même cette soif d'entreprendre.
Voilà, c'est quelqu'un qui aime, on l'a vu voyager, qui aime faire différentes choses, qui aime entreprendre. Il y a un petit côté touche-à-tout aussi chez Reed Hastings.
Mais la société, ça fonctionne pas beaucoup, beaucoup.
Non, c'est pas comme on aurait pu le croire, les étudiants qui sortent de Stanford, qui font sa société, et 3 ans plus tard, qui est milliardaire. C'est une petite société d'informatique qui rame un petit peu, et qui va fusionner donc avec Atria Software en 1996.
La fusion a fait que c'est devenu Pure Atria, et c'est ce que tu disais, du coup ils se rencontrent avec Mark Randolph.
Voilà, donc les deux se rencontrent parce que Mark Randolph est salarié donc de la société, et ils comprennent qu'ils ont des centres d'intérêt communs, des envies d'entreprendre communes.
Ils deviennent amis
et ils ont des compétences complémentaires. Et donc, en mettant en commun, disons, leurs compétences et leurs envies, ils vont fonder Netflix, hein, donc l'année suivante, en 97. Donc, Netflix, au début, il loue des DVD par correspondance. Donc, il y a un site.
Ah oui.
on choisit le DVD qu'on veut et il est envoyé par la poste. Donc c'est le début des DVD. Hein. Avant, avec les cassettes, ça marchait pas parce que c'était trop lourd et ça coûtait trop cher en timbre. Mais avec les DVD qui sont plus petits, ça devient possible.
Ils se sont inspirés d'Amazon, là.
Oui, alors ils louent et ils vendent au début. Hein. Ils font un peu les deux. Après, ils vont faire plus que de la location. Mais c'est vrai qu'ils sont clairement inspirés d'Amazon. Hein. Red Hastings, voilà, ça ne s'en cache pas. Donc l'idée, c'est un petit peu de faire avec les DVD ce qu'Amazon a fait avec les livres.
Donc, on rappelle, Amazon, c'est 94, donc c'est 3 ans avant.
Voilà, Amazon lancé en 94 par Jeff Bezos sur la vente de livres. Hein. Donc pourquoi la vente de livres? Parce que les livres, c'est facile à envoyer par la poste. Ça se casse pas, c'est pas périssable. Donc Jeff Bezos a commencé par les livres, non pas parce qu'il aimait les livres, mais parce que il s'est dit c'est le produit le plus simple pour faire mon business. Et donc eux font un petit peu la même chose avec les DVD. Et ils sont assez complémentaires parce qu'on l'a vu, Mark Randolph, lui, il connaît bien le marché de la location par correspondance, hein, ou de la vente par correspondance. Il a travaillé dedans. Et Red Hastings, lui, c'est l'informaticien, le codeur qui peut gérer le site internet. Donc en fait, ils sont assez complémentaires. Et c'est un peu pour ça, d'ailleurs, qu'ils se sont lancés tous les deux sur ce marché-là.
Donc ils sont complémentaires. L'idée, elle est plutôt bonne, la vente et location de DVD. Et pourtant, les débuts sont difficiles.
Oui, alors les débuts sont difficiles parce que les lecteurs DVD sont pas encore répandus chez les consommateurs. Donc eux, bah, ils louent des DVD et les gens n'ont pas forcément les lecteurs pour les lire. Donc les débuts sont un petit peu poussifs. Ils vont un petit peu tâter le terrain, même chez Amazon, pour voir s'ils peuvent pas se faire racheter à un prix intéressant. Bon, finalement, ça se fait pas.
Oui, Amazon, à l'époque, ne veut pas racheter Netflix. Et en plus, ils ont décidé de lancer un abonnement, mais c'est un peu cher comme abonnement.
Oui, donc au début, le produit principal, c'est on loue un DVD un par un. Et après, ils ont l'idée d'avoir une formule d'abonnement où on s'abonne au mois et on a droit à tant de DVD pour des durées plus longues. Parce que ce qu'avait remarqué Red Hastings, c'est que quand il allait louer des films donc dans les magasins de location, hein, aujourd'hui ça fait un peu préhistorique de dire ça, mais il n'y a pas si longtemps que ça, il y en avait encore, on avait des pénalités quand on le ramenait en retard. Et donc lui, il se sentait toujours un petit peu coupable de payer des pénalités. Il n'osait pas dire à sa femme,
j'ai
dû payer des pénalités.
C'était horrible de devoir ramener la cassette ou le DVD.
Voilà, c'est aussi pour ça que ce modèle-là, du coup, a été remplacé par d'autres, dont Netflix. Et donc voilà, ils ont un projet un petit peu de formule d'abonnement pour qu'il n'y ait pas ce côté je dois ramener très vite le DVD, sinon je vais avoir des pénalités. Bon, ça marche pas super bien, l'abonnement est un peu cher. Disons que quand on pense à Netflix, on pense tout de suite au succès, mais le succès a quand même été long à venir pour eux.
Et en plus, il faut dire que c'est presque, on est dans les débuts d'Internet, et notamment dans ces années-là, ça va être l'éclatement de la bulle Internet.
Oui, donc c'est les tournants des années 2000. Hein, donc à la fin des années 90, il y avait un énorme engouement pour Internet. On lançait une société qu'on appelait tartempion.com, et on avait tout de suite des investisseurs. Et tout ça se retourne au tournant là, 99, 2000, 2001. Et toutes les sociétés Internet, ça devient beaucoup plus difficile de lever des capitaux. Et il y a une phase très difficile pour beaucoup de sociétés Internet, dont Netflix. Et Netflix doit se séparer du tiers à peu près de ses effectifs à ce moment-là. Red Hastings en a gardé une expérience très intéressante. C'est qu'en fait, il s'est rendu compte que quand il a viré, quand il a licencié et remercié un tiers de ses salariés, il a choisi de se séparer de ceux qui travaillent le moins bien, qui s'intègrent le moins bien dans l'entreprise. Et en fait, il s'est rendu compte que la production de l'entreprise a augmenté. Parce qu'en fait, il s'est rendu compte que en se séparant du tiers qui était un petit peu ronchon, pas très productif, etc., ça a vraiment donné un coup de fouet à l'entreprise. Et en fait, il y avait des salariés qui étaient presque un peu des boulets dans l'entreprise, si je peux me permettre l'expression. Et il en a gardé comme leçon qu'en fait, il faut choisir les meilleurs, quitte à les payer très bien. Donc en fait, sa stratégie, c'est les meilleurs du marché que je paye au salaire le plus élevé du marché. Et ça lui vient un peu de là, cette expérience.
Et donc l'éclatement de la bulle Internet, ça a aussi un impact sur Netflix, que au-delà du licenciement de ses salariés, c'est que la société elle va mal. Mais il y a quand même peut-être la possibilité d'un rachat par une grosse société de location de DVD.
Voilà, donc à l'époque, aux États-Unis, le géant de la location de DVD, c'est Blockbuster, donc, mm-hmm. qui avait des magasins physiques, hein, de location. On allait louer ses DVD, on les ramenait. Et donc Netflix se dit, on pourrait se faire racheter par Blockbuster pour pas perdre tout notre investissement initial. Et Blockbuster refuse d'un air un peu dédaigneux en disant pourquoi je m'intéresserais à ce truc qui marche pas, qui est en train de faire faillite. Donc ça, voilà,
c'est vraiment, je pense, une des pires erreurs de la vie de des entreprises.
Oui. Il y a aussi celle de Google qui avait été prête à être vendue pour $1 million ça avait été refusé. Bon, il y en a quelques-unes comme ça, des gros ratages. Mais ça effectivement, ça en fait partie. Donc, Reed Hastings et Mark Randolph sont un peu obligés de continuer à essayer de pousser leur société quand même, puisque personne ne veut la racheter, en tout cas pas à un prix intéressant. Et c'est à ce moment-là que ça va commencer à décoller. Puisque, en fait, le changement, c'est la hausse du débit Internet. Et avec la hausse du débit Internet, ils se rendent compte qu'en fait, ils n'ont plus besoin forcément d'envoyer les films, mais que les clients peuvent les télécharger dans un premier temps. Ça, c'est à partir de 2005. Et à partir de 2007, ils peuvent les regarder en streaming. Et c'est vraiment avec la hausse de la puissance du réseau Internet que Netflix, tel qu'on le connaît aujourd'hui, en fait, va commencer à naître au début des années 2000.
Et en parallèle, évidemment, le déclin de la location de films dans les boutiques.
Voilà, donc il y a encore 10-15 ans, il y avait dans les rues de Paris ou même en France, mais partout, ces boutiques de location. Et évidemment, avec la possibilité de télécharger en ligne ou de faire du streaming, ce modèle-là est devenu complètement obsolète. Donc en fait, Netflix a un peu fait au magasin de location de DVD ce qu'Amazon a fait aux librairies. Hein, donc un modèle beaucoup, beaucoup plus productif, beaucoup plus efficace, qui a porté un coup terrible un peu à l'ancienne façon de faire. Et d'ailleurs, Blockbuster, hein, ce géant américain de la location de DVD, a fait faillite en 2014. Donc ça a été assez rapide, en fait.
Ah bah oui, il aurait mieux fait de racheter Netflix. Et contrairement à Amazon, il existe encore des librairies, mais il existe très peu de magasins de location, si ce n'est aucun.
Oui, je ne sais même pas s'il en existe encore. Hein. C'est sûr que les librairies ont souffert, mais ont réussi à survivre. Mais les locations de films ont complètement disparu.
En parallèle, du coup, avec le succès, une introduction en bourse de Netflix.
Voilà, donc Netflix s'introduit en bourse pour lever des capitaux au début des années 2000. C'est à ce moment-là que Mark Randolph décide de quitter l'entreprise, parce que lui, on l'a vu, il a la bougeotte. Ce qui l'intéresse, c'est de lancer des projets, c'est pas tellement de les voir aboutir. Donc il est parti voyager, faire des conférences, faire autre chose, financer d'autres startups.
Il est parti vraiment au tout début, en fait.
Voilà, il est parti quand ça commençait vraiment à se lancer, quoi. Quand ça commençait à bourgeonner, parce que ce qui l'intéresse, c'est la phase de lancement, en fait. Quand ça commence à devenir presque un peu trop facile, disons, il préfère aller voir ailleurs. Donc, à partir de ce moment-là, Reed Hastings est devenu le seul maître à bord de Netflix, et c'est vraiment lui qui a porté le développement et le succès de Netflix tel qu'on le connaît aujourd'hui.
Donc tu l'as dit, en 2007, grâce au début du streaming, un peu explosion de Netflix, mais il y a un deuxième tournant, c'est la percée à l'international en 2010.
Voilà, donc au début, Netflix, c'est donc une société américaine basée en Californie, à San Francisco, et en 2010, ils s'ouvrent au Canada, et petit à petit, ils vont essaimer dans le monde entier, sauf quelques pays, dont la Chine, hein, parce que la Chine a des règles très strictes en termes de contenu de ce qui est diffusé sur Internet. Donc ils sont présents presque dans tout le monde, sauf quelques pays, Corée du Nord, Chine et quelques autres. Et la grosse aussi nouveauté de Netflix, ça va être qu'ils vont faire leur propre contenu.
Ah ben oui.
Puisque jusque-là, au début, ils louaient des DVD, après, ils les vendaient ou ils les louaient en streaming, mais c'était des films faits par d'autres sociétés de production.
Oui, donc ils étaient liés à des gros studios hollywoodiens, des producteurs. Ils avaient envie de se détacher un peu de ça.
Oui, donc ils étaient juste entre guillemets, un canal de transmission entre les studios et le public, le consommateur final. Et donc, pour prendre leur indépendance, à partir de 2011, ils ont fait leurs premiers contenus originaux, donc au début des séries. Ensuite, ce sera aussi des films. Et c'est à partir de ce moment-là qu'ils ont commencé vraiment à concurrencer les studios et à devenir presque, on va dire, une menace pour l'industrie du cinéma traditionnel, et avec vraiment là un nouveau modèle.
D'autant plus que leurs atouts principaux, comme toutes les sociétés d'Internet, c'est évidemment la data.
Voilà, donc Netflix, comme Amazon, comme Google, comme toutes les boîtes du net, collectent des données sur leurs utilisateurs. Donc du coup, ils les connaissent, ils savent quels sont leurs goûts, ils savent ce qu'il faut leur mettre en avant sur la page, etc. Et ça, c'est un énorme avantage par rapport que ce soit aux librairies, aux loueurs de DVD ou aux studios de cinéma plus traditionnels ou aux salles de cinéma. Donc tout ce que ces entreprises apprennent sur leurs consommateurs, et après, elles le réutilisent pour proposer les meilleurs produits, les meilleures offres, ou dans le cas de Google, pour vendre de la publicité, mais ça c'est un peu moins le cas de Netflix. Mais ça leur donne un levier, en fait, que toutes les autres entreprises qui ne sont pas dans l'Internet n'ont pas.
Donc tu l'as dit, en programmes originaux, après les séries, ils s'attaquent aux films, et donc du coup ils rentrent en bataille avec le monde du cinéma.
Voilà, ça devient en fait un vrai concurrent de l'industrie du cinéma traditionnel et des salles de cinéma, en fait. Puisque, bon, après avoir fait couler les loueurs de DVD, d'une certaine façon, ils sont en train d'attaquer vraiment frontalement les salles de cinéma. Puisque le schéma traditionnel, c'était un studio de cinéma qui produit un film. Le film sort en salle et un an après, il sort à la télé. Et là, vu que Netflix fait directement son film, et ben il sort directement à la télé et pas sur les chaînes habituelles. Faut payer l'abonnement Netflix. Mais enfin, y a complètement les salles sont complètement court-circuitées. Donc l'industrie traditionnelle du cinéma est complètement attaquée, en fait, par ce nouveau modèle.
Avec le succès, évidemment, les critiques arrive rapidement.
Oui, les critiques, elles sont assez habituelles pour les entreprises Internet, c'est l'évasion fiscale.
C'est-à-dire évidemment.
Que, vu qu'il n'y a pas vraiment de localisation physique du produit, on fait apparaître les profits par des jeux comptables de localisation des droits de propriété, des droits d'image et autres. On les fait apparaître dans des lieux exotiques, aux îles Caïmans et au Luxembourg, je ne sais où. Et,
oui, je crois que pour Netflix, c'est la Hollande.
Peut-être la Hollande, je ne sais plus exactement, mais enfin, dans des endroits réputés pour la clémence de leur fiscalité. Et un autre problème de Netflix, c'est la consommation d'énergie, parce que donc c'est du streaming, on a souvent cette image que le net, c'est un nuage, mais en fait c'est pas un nuage, c'est des câbles et c'est des serveurs et qui sont très énergivores, et ça utilise la bande passante du réseau, ça augmente la consommation d'électricité. Donc d'un point de vue environnemental, le modèle Netflix n'est pas forcément le meilleur qui soit.
D'autant plus qu'on ne consomme plus les séries de la même façon et les films de la même façon. On les enchaîne maintenant à cause de Netflix.
Bah oui, c'est tellement facile. On est sur son canapé, il y a juste à cliquer. Et puis en plus, on va vous mettre exactement la série en fonction de celle que vous avez aimée avant, etc. Donc c'est sûr que c'est pensé pour que l'utilisateur reste devant ses séries le plus longtemps possible.
Mark Randolph a donc quitté la société en 2003, tu l'as dit. Et par contre, Reed Hastings, il est toujours à la barre, il est là.
Voilà, il est toujours à la barre, c'est un peu c'est devenu un petit peu la figure de Netflix. Il détient toujours 2,5% du capital, ce qui fait quand même une petite fortune d'environ 5 milliards d'euros. Et bien sûr, l'épisode de la crise sanitaire pour Netflix a été un formidable booster d'activité, puisque pendant des mois, les gens ne pouvaient plus aller en salle, ils se retrouvaient bloqués chez eux, et ils se sont dit, qu'est-ce que je vais faire de ma journée? Tiens, j'ai regardé une série Netflix. Donc là, il y a eu... c'est quelque chose que Netflix n'avait pas du tout, évidemment, pu prévoir, mais ça a été une chance assez incroyable, et le nombre d'abonnés s'est envolé. Alors maintenant, ça se stagne un peu.
D'autant plus qu'il y a de plus en plus de concurrents maintenant.
Oui, alors il y a des concurrents, il y a Amazon, il y a Disney qui ont commencé à lancer des offres un peu similaires, avec eux aussi parfois leur propre programme. Donc il y a une concurrence qui arrive, mais disons que Netflix, c'est un petit peu, ça reste, quand on pense à ce modèle-là de services de films, de séries en ligne, quoi, en ligne, mais qu'on peut regarder soit sur l'ordinateur, soit sur le téléphone, soit sur la télévision, ça reste un petit peu l'acteur clé, même si bien sûr il y en a d'autres qui ont senti le filon.
C'est quasiment un nom commun.
Oui, ça devient... regarder une série Netflix, c'est presque un terme générique, en fait. On voit tout de suite ce qu'on veut dire. On est sur son canapé ou même dans le train, sur sa tablette. Et on a des contenus, très très large gamme de contenus, et souvent des contenus originaux. C'est ce qui fait la force. C'est qu'il y a des choses qu'on ne peut voir que sur ces plateformes-là.
Le succès de Reed Hastings et de Mark Randolph, évidemment, c'est une bonne idée. Et la persévérance. Et si Reed Hastings est bien toujours à la barre de Netflix, il vient d'annoncer qu'il va rester à la tête du conseil d'administration, mais qu'il va confier l'opérationnel à un tandem. Affaire à suivre donc. Merci Sylvain.
Merci Mickaël.
Alors je rappelle Sylvain que cette histoire est tirée du tome de ta série de livres « Les entrepreneurs de légende du cinéma ». Très passionnant si vous avez envie de savoir un peu plus sur la construction notamment des gros studios hollywoodiens ou même de studios français. Vous retrouvez tout ça dans « Les entrepreneurs de légende du cinéma ». C'est évidemment chez les éditions Hendrik B. Vous pouvez réécouter tous nos épisodes sur toutes les bonnes plateformes audio, même les moins bonnes, et sur cdipodcast.com. N'hésitez pas à liker, à partager, à dire à vos amis que c'est un super podcast parce que vous ne leur mentirez pas. À très bientôt.
CDI Podcast.
Entrepreneur de légende.